dit des fois l'Ancien Testament, au deuxième livre de Samuel, chapitre 23 et verset 15. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23, à partir du verset 15. David eut un désir et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant le Seigneur. Il dit, « Loin de moi, ô Seigneur, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. Ce texte m'a toujours frappé. Y a-t-il en David de l'instabilité, de la fantaisie? Bien sûr que non. Le texte nous dit que David eut un désir. Y a-t-il de la nostalgie dans ce désir-là? Nous rappelons en effet que David a grandi dans la région toute proche de Bethléem. Il connaissait donc la citerne de Bethléem. Et il avait donc déjà goûté cette eau, peut-être meilleure que celle d'Évian. En tout cas, David a eu envie de revenir à la source qu'il connaissait depuis tout jeune. C'est une bonne idée, ça, de revenir à la source. N'est-ce pas ce que nous faisons? Il connaissait donc la qualité de cette eau. Et il est à la tête d'une armée. Il y a la guerre avec les Philistins. Il y a donc un problème entre l'endroit où David se trouve avec ses armes, ses armées, et la citerne, ben, il y a les Philistins. Il y a le camp ennemi. Et David lance cette demande qui retentit comme un défi aux oreilles de ces héros qui l'entourent, trois vaillants hommes. Et ils se disent, allez, on y va. Et ils se lèvent au péril de leur vie, traversent le camp des Philistins pour aller chercher de l'eau de la citerne qui est près de la porte de Bethléem. Ils traversent donc les lignes ennemies. Et puis vous l'avez entendu, quand ils reviennent avec l'eau, David ne peut pas la boire. Il ne voulut pas la boire. Pourquoi? Parce que cette eau lui avait été apportée au prix fort, c'est-à-dire au risque mortel pris par ces héros, ces trois vaillants hommes. Et David a conscience que boire cette eau-là, c'est comme s'il buvait le sang de ces hommes. Or, vous savez que la consommation du sang était interdite par la loi de Moïse. Et David est révulsé par cette simple idée de boire du sang de ces hommes en plus. Et il répand l'eau par terre. Le geste de répandre l'eau sur le sol comme une libation correspond à ce que la loi de Moïse imposait au sujet du sang. Quand on abattait les animaux au désert, au tabernacle du désert, puis dans le temple à Jérusalem, on ne buvait pas le sang des animaux sacrifiés au Seigneur, il devait être répandu sur le sol. Vous ne consommerez pas le sang, dit Moïse, vous le répandrez à terre. Et David fait ce geste avec l'eau, mais une eau toute particulière à ses yeux, puisqu'elle constitue le prix du sang. Au fond, je trouve qu'ici, David fait preuve de grandeur d'âme. Il a là une échelle des valeurs, rare chez les humains et surtout chez les puissants de ce monde. Je pense à ces colonels, ces généraux, assis dans le velours des salons parisiens, qui d'un trait de plume envoyaient des millions de jeunes hommes à la boucherie. Première guerre mondiale. Vous avez vu Le Dernier Jour, ce film ? Non, c'est Demain là-haut. C'est un film poignant. C'est un livre aussi, où on assiste vraiment à cette monstruosité de la guerre, où des gens en sécurité, confortablement installés, on voit se faire massacrer des générations de jeunes hommes. La France ne s'en est jamais relevée. David, là, agit d'une autre façon. En agissant comme il le fait, David annonce quelque chose, à son insu peut-être. Mais c'est ce qui est au cœur de l'Évangile, le cœur même de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le prix infini auquel Dieu nous estime, nous, les humains, ses créatures. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque lui fait confiance ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tellement aimés. C'est ce tellement qui compte, qui dépasse justement les calculs. Dieu nous a tellement aimés. Vous en êtes sûr, vous ? Croyez-le, vous avez du prix à ses yeux, un prix infini. Bien plus que le prix auquel vous-même, parfois, vous êtes conduit à estimer votre existence. Dans le découragement, Job, vous connaissez ce livre de la Bible, Job, assailli de toutes parts par la pauvreté, le deuil, la souffrance, finit par maudire le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né. C'est comme ça qu'un homme est poussé au désespoir. Eh bien, c'est un long poème qu'il faut la peine de lire et de méditer, mais vers la fin, il a changé totalement de vision. Sa vie a du prix aux yeux de Dieu. J'ai trouvé une rançon, dit-il. Jésus-Christ est la rançon de ta vie. C'est le prix auquel Dieu t'a racheté. C'est comme ça. Il suffit de le croire. Dieu attache à l'être humain un intérêt amoureux, au-delà de toute estimation. Alors, en méditant ces textes-là, je me suis dit au fond, la question qui nous est posée, c'est: quelle est la vraie valeur des choses ? Que vaut la vie ? Dieu ne compte pas comme nous. J'ai lu un petit bouquin d'un aumônier catholique dont le titre est assez frappant. Il dit « Dieu ne sait pas compter ». Il est généreux. Il aime sans compter. Et il ne compte pas comme nous. Posons-nous la question, puisque c'est en son nom que nous sommes rassemblés ce matin. Une fois encore, quelle est l'attitude de Jésus? Comment voit-il les choses? Alors, plusieurs textes des évangiles en témoignent et nous allons en lire quelques-uns. Ce ne sera pas trop long, ne vous inquiétez pas. On va aller d'abord chez Matthieu, chapitre 20. On ne lira pas tout selon ces longues paraboles, mais déjà les lecteurs habituels des évangiles savent de quoi il s'agit. Matthieu, chapitre 20, c'est la parabole des ouvriers embauchés à des heures différentes. Depuis 6 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir, ils en ont embauché. Alors, Jésus nous dit d'abord que le royaume des cieux fonctionne de cette manière. Il est comme un maître de maison qui sort dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convient avec eux d'un denier par jour, c'était le salaire habituel, le tarif, comme on dit, syndical. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Alors il leur dit, « Vous aussi, allez à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, c'est-à-dire midi. Et vers la neuvième heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Étant sorti vers la onzième heure, c'est-à-dire 5 heures du soir, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?»« C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai... » Enfin, il leur dit rien d'autre. Et quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Alors, voyez la scène. Il y a une file d'attente qui se crée au bureau du trésorier payeur général. Et puis, ceux qui ont été embauchés à 5 heures en repartent avec un denier. Et ceux qui étaient en fin de la queue, « Ouh là là, dis donc, waouh ! Qu'est-ce qu'on va toucher ? La calculette s'est mise en route. Hein ? Moi, j'ai commencé à 10 heures du matin, 10h, 18h, ça fait 8 heures de boulot. Ceux qui n'ont travaillé qu'une heure ou deux, ça doit faire 4 fois plus au moins. J'ai touché au moins 4 deniers. Ils sont déjà en train d'acheter un terrain, de prendre un crédit pour la voiture. Ils sont déjà en train de calculer. Et puis voilà, quand leur tour arrive, ils ne reçoivent qu'un denier. C'est pas juste. C'est pas juste. On a trimé, on a supporté la fatigue du jour, la chaleur. Et tu nous traites comme ceux qui n'ont travaillé qu'une heure. Étrange royaume de Dieu. Jésus nous dit que ça fonctionne comme ça dans le royaume de Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse appliquer cette loi au monde économique, bien entendu. Ça ne tournerait pas très rond. Mais voyez-vous, la leçon de cette histoire, c'est que le maître de la vigne considère la valeur humaine plus grande, plus importante que la valeur monétaire de l'argent. L'être humain doit être traité selon ses besoins et non selon ses mérites. Et les ouvriers de la 11e heure ont les mêmes besoins que ceux qui ont travaillé toute la journée. Une femme, des enfants attendent à la maison. C'est ce que voit le maître. Il n'a pas été injuste au fond. C'était le contrat. Alors bien sûr, cette parabole a dû scandaliser son auditoire. Oui, cette histoire heurte et scandalise les tenants d'une pure logique comptable. la logique du donnant-donnant, selon l'opinion courante. Et beaucoup de gens m'ont fait cette remarque quand ils parlaient de leur passé religieux. Une certaine église majoritaire, ils me l'ont dit, c'était donnant-donnant. Pour avoir une grâce, une bénédiction, il fallait souffrir. Pour gagner son paradis, il fallait porter sa croix, endurer l'adversité, courber le front. Ils ont grandi dans cette religiosité-là, dominée par une logique marchande, donnant-donnant. C'est pas l'évangile, ça. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, de la confiance. Dieu récompense la confiance. Le règne de Dieu fonctionne autrement. Les chiffres sont moins importants que les besoins des ouvriers. C'est le règne de la souveraine grâce de Dieu et non celui de la calculette. Et je pense que ça n'a pas pris une ride dans notre économie actuelle. Les chiffres sont moins importants que les besoins des gens. Les chiffres sont moins importants que les gilets jaunes. Pour évoquer une actualité encore fraîche, il y a du chemin à faire, du côté de nos gouvernants. Évangile selon Luc. Allez, on va continuer. Chapitre 21. On va changer complètement de décor. On va se retrouver dans le temple. Dans le temple de Jérusalem. Au chapitre 21 de Luc et au verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Alors, il n'y avait pas de chèque à l'époque, ni de carte de crédit. Ça faisait du bruit. Comme on dit, c'était des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Et pring, ça faisait un bruit. Et puis, il y a une petite veuve qui arrive. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces, deux pièces jaunes. On a à peine entendu le bruit. Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Car c'est le superflu, c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Ils pouvaient se le permettre, ça ne mange pas de pain. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le texte grec suggère qu'elle a mis sa vie dans le tronc. Elle s'est livrée totalement. Jésus, regardant comment les gens mettaient de l'argent dans le tronc du temple, voit cette femme. Ses pièces valaient un ou deux de nos centimes. C'était de l'epte, ça s'appelait comme ça, de l'epte. Elle a mis plus que les autres. Et Jésus admire ce geste. Pourquoi ? Parce que lui, il se reconnaît dans ce geste. Cette veuve lui parle de lui-même. Jésus admire ce geste, non pas pour la valeur minime des deux petites pièces jaunes, mais dans la manière d'agir de cette pauvre veuve. Son don est total, précieux, plus que tout le superflu des riches. Son offrande est prophétique. Cette femme prophétise la croix. Et Jésus comprend le prix infini qu'il aura lui-même à payer pour nous tous. Cette veuve annonce la totalité, l'entièreté, l'absoluité du don de la vie de Jésus sur la croix. Le sang de Jésus-Christ est précieux en ce sens qu'il est don total. Jésus s'abandonne sur la croix, dans la foi. Jésus fait confiance à celui qu'il a envoyé et dont il sait qu'il ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts, mais qu'il le ressuscitera le troisième jour. Encore un épisode différent. Il est présent dans les quatre évangiles, c'est dire son importance. On va prendre, bah tiens, on va revenir chez Matthieu, 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. D'autres textes qui relatent la même scène dans les autres évangiles précisent que c'est du nard pur de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. D'autres, toujours relatant le même événement, disent c'est sur les pieds de Jésus. Peu importe. Sur sa tête. Ses disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher. L'évangile de Jean, elle l'estime à 300 deniers. Prenez compte, une année de salaire. Pouf. Comme ça. Et on donnait le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Encore un geste prophétique, voyez-vous. « Je vous le dis en vérité, partout, dans le monde entier, où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Dont acte, une fois de plus. On le retrouve chez Luc, on le retrouve chez Jean, on le retrouve chez Marc, avec des petites différences. Mais ces différences ne sont pas importantes. Jésus déroute ses auditeurs, une fois de plus, par l'attitude qu'il prend. La femme est une pécheresse anonyme chez Luc. Elle pleure et mouille les pieds de Jésus, les essuie avec ses cheveux, les embrasse et les oint de parfum. Le point essentiel commun à tous ces récits, c'est que Jésus justifie un geste fou, une dépense complètement folle. Et peu lui importe la valeur marchande de ce produit de luxe. Le nard est issu de la distillation d'une plante qui pousse sur les flancs de l'Himalaya, en Inde, au Népal, au Bhoutan. Il était utilisé non seulement pour les rites funéraires, mais aussi pour calmer les nerfs. Je me souviens d'une sœur à Nantes qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça calme bien les nerfs. » Et là, il paraît que le nard calme les nerfs. Pour d'autres circonstances encore. Mais ce que nous ne savons pas toujours, c'est que le nard, ça sent pas bon. Ce n'est pas un parfum suave. C'est assez désagréable. C'est très amer. Donc c'est issu d'une plante buissonnante qui a beaucoup de vertus médicales et autres. Bon. En tout cas, elle coûte très cher. Si on en croit la réaction des disciples de Jésus, une année de salaire pour un petit flacon, c'est pas donné. Ils s'en prennent donc à cette gaspilleuse. Mais Jésus prend sa défense. Au nom de quoi ? Au nom du caractère prophétique de son geste. Elle a d'avance oint mon corps pour ma sépulture. Jésus sait que ses souffrances sont toutes proches. Sa mort est toute proche. Les disciples n'en sont pas du tout conscients, mais elle, elle a compris cela. Ou alors peut-être ne l'a-t-elle pas compris, mais son geste est inspiré en tout cas. Elle oint Jésus pour sa sépulture. Sa mort à Jésus, ses souffrances et sa mort ont infiniment plus de valeur que toute autre chose. La croix reste debout, dit un cantique. Elle se dresse comme un défi à toutes nos valeurs, toutes nos gloires, toutes nos puissances, tout ce après quoi nous courons, tout ce qui nous fait avoir des désirs, de la convoitise, tout ce qui excite nos rivalités. Tout ceci n'a pas de valeur en face de la croix de Jésus-Christ. Le texte de Matthieu en grec dit « Elle a fait une belle œuvre ». Pas seulement une bonne œuvre, mais une belle œuvre, une œuvre admirable qui annonce la belle œuvre de Jésus qui s'est livrée sur la croix pour nous. Oui, la valeur prophétique de son geste dépasse largement tous les calculs de l'économie. Jésus ajoute, « Vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. » Ce n'est pas de la désinvolture, ça. Mais Jésus saisit l'instant prophétique de ce que fait cette femme. « Moi, vous ne m'avez pas toujours. » Effectivement, Jésus va mourir, être mis dans un tombeau, et puis monter, remonter vers le Père. On ne peut pas saisir corporellement Jésus-Christ. C'est inutile. On ne peut pas toucher physiquement Jésus. C'est inutile. Parce qu'on peut le toucher bien mieux, d'une autre manière. On peut le toucher par l'Esprit. L'Esprit de Jésus est au milieu de nous. Et il veut toucher notre esprit à chacun. La communion avec Jésus-Christ, c'est d'esprit à esprit. Il n'y a pas de matérialité, comme croient parfois certaines personnes au sujet du repas du Seigneur, le pain et le jus de raisin. Ce ne sont que des symboles, des signes qui nous parlent, mais il n'y a pas de matérialité qui servirait de véhicule au Dieu qui veut résider dans nos vies. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui saisit la présence du Saint-Esprit. Saisissez-la ce matin. Accueillez-le avec joie, avec reconnaissance. Peut-être dites-vous, je n'en suis pas digne. Vous avez bien raison. Mais c'est justement pour ça. Un jour, il y a une brave sœur à Annemasse qui vient me voir en pleurant, me dit « Oh, frère, je ne suis pas satisfaite de ma vie spirituelle. » Je dis « Ben, tant mieux. » « Ah bon ?» Ça l'a refroidi. Je dis « Ben oui, parce que justement, vous êtes mûrs, là, pour accueillir la bénédiction du Seigneur. » Hein ? Ouais. Elle avait soif. Je terminerai par une dernière lecture qui se trouve dans la première épître, la première lettre de Pierre, au chapitre 1er, les versets 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans faire de différence, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte, je ne veux pas dire avec peur, mais dans le respect de Dieu. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Vous voyez, c'est un rappel salutaire, ça. L'argent et l'or, après, qui prennent tellement d'importance dans l'esprit de beaucoup de gens. Ce sont des choses périssables. Ces choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères. Au fond, l'homme est ce qu'il est, quoi. Nous nous situons entre des générations. Ce que nos pères ont été, nous le sommes, et ce que nos enfants seront, c'est ce que nous sommes. Sans l'intervention de Dieu, rien ne change, n'est-ce pas? C'est une manière de vivre soumise à la vanité. Mais Dieu veut nous faire un autre cadeau pour nous, justement, nous sortir de cette vaine manière de vivre. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Évidemment, les lecteurs judéo-chrétiens du premier siècle comprennent tout de suite l'allusion aux agneaux sacrifiés dans le temple tous les jours. Et il fallait que ces agneaux offerts soient sans défaut, sans tache. Eh bien, Pierre reprend cette image et l'applique à Jésus-Christ. Lui, sans défaut et sans tache, a versé son sang précieux. Lui qui était prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, vous qui, par lui, croyez en Dieu. Je reviendrai sur cette phrase. Lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous qui, par lui, croyez en Dieu. Est-ce que nous comprenons bien ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas déistes. Nous sommes chrétiens. Et ce n'est pas la même chose. Un déiste, c'est le contraire d'un athée. Il y a bien un bon Dieu, là, au-dessus, quelque part. Ça, je veux bien. Ça, c'est être déiste. Mais cela ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est que nous nous approchions de ce Dieu et que nous le prions par Jésus-Christ. Jésus est le visage de Dieu tourné vers nous. Le sang de Jésus versé sur la croix est précieux à ce titre-là. À nulle autre valeur, il ne peut être comparé. L'or et l'argent ne peuvent pas acheter le ciel, ni aucune autre bénédiction divine. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui pensait acheter avec de l'argent. Il a offert de l'argent aux apôtres. Quand il a vu que les apôtres imposaient les mains aux gens et que ceux-ci recevaient le Saint-Esprit, « Donnez-moi ce pouvoir, je vous offre de l'argent. » Il s'est fait remonter les bretelles, hein, vite fait. « Que ton argent périsse avec toi. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Ouh là là, alors là, il n'en menait plus très large. Oui, les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Ne nous croyons pas exempts, nous, dans le monde évangélique, de ce genre de déviance. J'ai connu un temps où des gens promettaient la guérison à certaines personnes si elles envoyaient une demande de prière à tel ou tel grand nom évangélique, accompagné d'un petit chèque. Vous vous rendez compte? La nature humaine, oh là là, indécrottable. Oui, l'or et l'argent n'achètent pas les dons de Dieu. L'or et l'argent, auxquels les humains attachent tellement d'importance, ont beaucoup moins de valeur que le sang précieux du Christ. Devant lui, devant ce sang précieux, toutes les gloires s'effacent, tout s'éclipse, tout devient relatif. Et c'est une immense libération, voyez-vous. Quand on vit dans le monde, on se compare, c'est à qui aura la plus belle voiture, à qui aura la plus belle maison, à qui aura le plus grand nombre de domestiques, etc. On en met plein la vue, on mange du homard et tout. On vit sous les ors des palais élyséens. Vous savez que les Champs-Élysées, chez les Grecs, c'était la demeure des dieux. Ben oui, c'était le monde des dieux, Zeus, Jupiter. Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Latins. C'est ça notre monde. C'est le monde qui nous a façonnés, qui nous impressionne. Alors libérons-nous de tout ce poids, de toute cette pression du monde. Nous sommes libres, nous pouvons avoir la tête haute. Même si on te marche sur les pieds, même si on te méprise, même si on te regarde avec dédain, relève ta tête. Parce que pour le Seigneur là-haut, tu as une valeur infinie. Amen. Tu vaux plus que l'or ou tout l'argent du monde. Tu es précieux à ses yeux. Alléluia. Le sang de Jésus est dit précieux parce qu'aucun autre don ne le surpasse. Parce qu'il a combattu jusqu'à la mort de la croix et qu'il s'est livré totalement pour nous. Lui, le Fils de Dieu. Autrement dit, Dieu lui-même à travers Jésus. Le Dieu crucifié. Voilà le scandale. Voilà le mystère. Voilà ce qui nous ouvre les yeux et ce qui nous débouche les oreilles et ce qui débloque nos membres paralysés. Et ce qui lave nos cœurs de toute lèpre du péché, voilà la croix. Je terminerai par une toute petite digression, pardonnez-moi. Mais n'avons-nous pas besoin d'apprendre de Jésus la vraie valeur des choses? Interrogeons nos manières de consommer, les nourritures, les objets, les temps, de notre vie. Ce sont des questions très actuelles, imposées par le changement climatique, entre autres. Comme consommateurs de nos écrans, posons-nous la question du prix de leur fabrication. Consommateurs de nos fruits et légumes, posons-nous la question du prix pour leur culture et leur transport. Il faut vivre avec son temps, bien sûr. Mais, pour le moins, ayons conscience de la vraie valeur des choses. Comme citoyens, comme terriens, ce ne sont pas encore des martiens, ça viendra peut-être un jour, mais il faut le temps. Comme frères des hommes, comme chrétiens appelés à incarner une espérance pour notre monde. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions, Seigneur. Comment ne pas te louer, te célébrer, Seigneur notre Dieu, pour le prix infini que tu attaches à nos vies, à chacun de nous, qui que nous soyons, petits ou grands, hommes ou femmes, de quelque ethnie que nous soyons, de quelque condition que nous soyons. Oui, tu as enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance, afin de faire grâce et miséricorde à tous. Et nous te remercions pour la grâce qui nous touche aujourd'hui. Merci de pouvoir lever la tête, lever les yeux vers toi, et nous savoir aimer d'une telle façon. Amen.